Radio Satine, grand témoin. Avec le même plaisir pour le même devoir, je prends témoin le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Dr. Urbain Kisolangoy, ancien gouverneur de la province de Katanga et actuellement député provincial. Bonjour docteur.
Bonjour madame.
C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans notre émission. Avec vous, dans cet entretien, nous parlerons de vous, de vos fonctions antérieures et de la fonction que vous assumez actuellement dans la province du Katanga. Mais avant de parler de toutes les fonctions, commençons d'abord par vous découvrir, vous présenter auprès de tous les auditeurs qui nous suivent sur Radio Okapi. Docteur Urbain Kisolangoy est né où et quand?
Je suis né à Lubumbashi, il y a longtemps, en 1942.
Et c'est à Lubumbashi que vous faites vos études?
J'ai fait mes études, j'ai commencé les études primaires, secondaires, à Lubumbashi, puis je suis allé dans le Bas-Congo.
Oui, je m'en étais aussi quelques études, docteur Urbain
Kisolangoy. J'ai fait des études médicales, j'ai fait les humanités ici. Je suis allé faire une partie de mes humanités dans le Bas-Congo, c'était à Kisasu. Je suis revenu ici pour faire l'université officielle du Congo. J'ai fait la faculté de médecine ici et j'ai terminé comme médecin en 1976.
Vous vous sentez plus à l'aise quand je vous appelle docteur ou bien honorable? Vous préférez quoi entre les deux?
Vous me demandez de choisir. Non, je n'ai pas choisi. J'ai déjà fait le choix. Je suis médecin actuellement.
Ok, on va continuer avec le docteur Urbain Kisolangoy. Parlez-nous de votre enfance. Vous avez grandi dans quelles conditions?
J'ai grandi dans les conditions suivantes. Je suis un enfant de travailleur. Disons que socialement, je ne dis pas que c'était la pauvreté, non. Mais les conditions étaient difficiles. Mais à l'époque, nous avions la chance d'avoir des bourses d'études. Ce qui fait que je bénéficiais d'une bourse d'études dans des études universitaires. Tandis qu'aux humanités, nous avions encore la chance de recevoir parfois des livres, des cahiers qui nous étaient donnés à l'Institut Saint-Boniface de mes étudiants.
C'est quoi le plus beau souvenir que vous gardez de votre enfance?
Le plus beau souvenir que je garde de mon enfance, c'était le parcours que je faisais d'ici, vous imaginez, de Lubumbashi qui s'appelait Libreville. Je devais aller à Léopoldville, puis dans le Bas-Congo. La traversée d'ici Ilebo, qu'on appelle maintenant Ilebo, qui s'appelait Popranqui, ça me permettait de voir le paysage. Nous avons un beau pays. Je garde un beau souvenir de ça.
Et donc vous y allez par route?
Nous y allions par train. D'ici jusqu'à Ilebo, par train, nous allons prendre le bateau et nous descendions jusqu'au Congo, jusqu'à Kinshasa.
Il n'y avait pas d'avion à cette époque? Ou ça coûtait cher?
À l'époque, il y avait des avions. D'abord, je dois être sincère, il n'y avait pas de ligne organisée comme ça, sans ce qui ne se fait du tableau de vie. Nous y avions pas train, parce que d'abord nous étions pauvres, nous ne pouvions pas payer l'avion. Et puis deuxièmement, quand on a eu les avions, c'est bien après l'indépendance.
Docteur Kisola, es-tu marié?
Je suis marié et père de 5 enfants.
Radio Capi, grand témoin. Parlons de votre parcours politique. Comment vous vous retrouvez dans la politique, docteur Kisola?
Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Et j'espère que nous aurons le temps de tout dire. J'ai commencé par être médecin engagé à la GKMN. Et puis, un jour, je suis à l'IGACI. J'apprends, on me dit, voilà, vous êtes coopté membre de l'Assemblée provinciale. Nous sommes en 82. Donc, voilà, je suis médecin en fonction à la GKMN. Et on me compte, parce qu'il y avait des élus et des conseillers.
Vous ne faisiez pas partie d'un parti politique quelconque, tout simplement parce que vous étiez au médecin et vous avez tout compris.
Madame Kelly, vous savez qu'en 1982, il y avait un seul parti politique que vous connaissez.
Parce que vous faisiez partie de ce parti politique, vous avez été coopté, ou bien vous aviez aussi des ambitions de travailler à l'Assemblée provinciale?
Non, cette ambition, je l'avais. Parce qu'on peut dire déjà qu'il y avait posé, les autres avaient posé leur candidature dans le cadre du parti de l'époque, qui avait posé leur candidature pour être membre de l'Assemblée. Je n'avais pas posé ma candidature, mais j'ai été coopté membre de l'Assemblée.
Et pourquoi le choix sur vous?
Vous me posez une question difficile. Je n'étais pas le seul coopté. Il y a eu d'autres cooptés. Ils étaient 15 à peu près. Pourquoi nous a-t-on coopté? C'était la décision de ceux qui ont fait ce choix.
C'était qui était le président de l'Assemblée? On appelait ça l'Assemblée régionale à cette époque.
C'est une question délicate, très délicate. C'était moi.
Ah bon? Donc vous êtes coopté à l'Assemblée en même temps, vous nommez aussi président de l'Assemblée?
Oui, madame.
C'est bizarre quand même, hein?
C'est pas bizarre, mais je sais pas, peut-être que ça s'explique avec la philosophie, la façon de voir les choses à l'époque. Mais c'est par un pur hasard.
Et vous avez passé combien de temps à la tête de l'Assemblée régionale?
Normalement, l'Assemblée était pour 5 ans, mais il s'est fait que, pour les raisons que nous ignorons, ça s'est prolongé jusqu'à 7 ans. Donc de 82
à 89.
89.
Et comment vous quittez l'Assemblée régionale?
Je réintègre mon travail à la GFMI. Je suis lancé de mettre à la GFMI. C'était la fonction que je n'avais pas laissé tomber. En dehors des sessions, j'étais médecin GFMI.
Après l'Assemblée régionale, vous rentrez à la GFMI jusqu'en quelle année? Parce que vous avez exercé aussi la fonction de gouverneur de province du Katanga.
Bien plus tard, mais après l'Assemblée, je suis rentré pour continuer mon travail à la GFMI. Et à ma grande surprise, j'ai été nommé administrateur pendant une année, administrateur à la GFMI. Et après ça, j'ai été membre du comité de campagne, la nomination aussi. En 2004, au mois de mai, j'ai été nommé gouverneur.
Docteur Urbain Kislango, parlons de la fonction de gouverneur que vous avez assumée. C'était à l'époque du 1 plus 4. On sait qu'à cette époque-là, le poste de gouverneur de province de Katanga était réservé au Maïmaï et vous faisiez partie du PPRD. Comment expliquer que vous vous retrouvez à la tête de la province de Katanga? Dites-nous un peu, ça c'était par quelle magie?
Je vois bien que vous êtes bien informé. C'est pas si je dois vous répondre, puisque vous avez constaté la réalité, c'est que la charge qu'on m'a confiée après m'a obligé de sympathiser avec mes frères du Maïmaï. La mission qui m'avait été confiée, lorsque j'ai été invité pour occuper les fonctions de gouverneur, il m'a été dissocié. Le Katanga est divisé en deux. Ça ne doit plus continuer. Il faut que vous parveniez à réunir le Katanga. Il y a une partie qui est occupée par le RCD, c'est la partie nord, tout le district de Tanganyika, et une partie du district du Lomami. Et même une partie du Katanga. Cette situation doit se terminer. Vous connaissez les Maïmaï, j'espère que vous en avez entendu parler. Mais je ne sais pas si vous connaissiez les Maïmaï du Katanga. Ils étaient assez durs. Nous faisons des gens comme Jindapsinja et tant d'autres. J'ai accepté, j'ai commencé le travail avec d'autres. Il fallait aller négocier avec les Maïmaï. Je vous informe que nous avons perdu certains frères dans ces négociations. Il y a eu une histoire que je tiens quand même à vous rappeler. Il y avait des Maïmaï qui étaient dans le nord, du côté des Manono. Et ceux-là, ils étaient féroces. Certains de nos frères sont restés. Je ne parle pas des militaires, mais je parle des civils. C'était offert pour affronter les Maïmaï. Si vous permettez, Madame Kelly, je peux vous raconter une histoire d'un abbé.
Oui.
Je ne citerai pas de nom. Un jour, un abbé, qui était étudiant à l'université de Lubumbashi, il vient me voir au gouvernorat. Il me dit que la lutte que vous êtes en train de mener est dure. Moi, je connais le chef, l'un des chefs de Maïmaï, qui opère du côté de l'est de Manono. Si vous me donnez une moto et des provisions, eh bien moi je pourrais aller négocier avec lui. Les deux vice-gouverneurs qui avaient assisté à l'entretien avaient refusé. Ils m'ont convaincu de ne pas accepter. L'abbé est revenu à la charge. Il a dit qu'il voulait nécessairement aller au nord de Manono pour négocier avec ce chef Maïmaï. C'était Gédéon. La deuxième fois, il nous a convaincus tous. Et le vice-gouverneur chargé de finances lui a fait donner ce qu'il fallait. Il avait acheté la moto. Il est parti. Puis, il a fait des messages pour dire qu'on devait se rencontrer à Doubié. Prenez la carte du Katanga, vous verrez où se situe Doubié. Nous avons été là avec le commandant de la 6e région militaire et les autres responsables de sécurité. Nous l'avons reçu à Doubié. Il nous a expliqué qu'il a parlé avec le chef Maïmaï Gédéon et que tout s'arrangeait. Il pourrait venir voir le gouverneur après. Mais je dois d'abord rentrer pour mettre au point les modalités de la rencontre. Il est parti, Madame Kelly pour ne plus revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous l'apprendrons après, lorsque Gédéon sera à se rendre. Plutôt, il a été tué sur l'ordre de ma l'épouse de Gédéon. C'est ce qu'eux-mêmes nous ont expliqué après. Donc voilà quelqu'un qui s'est offert et qui est mort parce qu'il voulait.
J'appelle la réconciliation.
Vous l'avez dit, merci.
Quand j'étais gouverneur, certaines personnes ou l'opinion pensent que vous n'avez pas bien géré la province. Comment vous répondez à cette question lorsqu'on dit que le gouverneur Pichon n'a pas bien géré la province?
Vous serez bien dit comme vous l'êtes. Je réponds. Donc ceux-là ne connaissent pas l'histoire du Katanga. Le Katanga, vous ai-je dit au début, était divisé en deux parties. Lorsque j'ai remis cette province à mon successeur, le Katanga était unifié et la paix existait. Les gens pouvaient circuler de Kalemi à Kasakanya et ainsi de suite. Comment pouvez-vous dire qu'il n'a pas bien divisé quand il a remis la paix? Parce que tout le monde a constaté qu'on faisait du travail de l'Okatanga. Il y a eu le boom économique pendant un certain temps. C'est parce qu'il y avait la paix, il y avait le calme. Les gens pouvaient circuler comme ils voulaient. Les populations disaient en paix, Madame Kelly. Auriez-vous certainement le courage de dire qu'il n'a rien fait, à moins que vous soyez de mauvaise foi? C'est ce que je ne crois pas.
Quel est le souvenir, qu'est-ce que vous avez laissé au peuple du Katanga lorsque vous étiez gouverneur, à part la paix que vous avez restaurée dans la province, sur le plan, par exemple, d'infrastructure, quel souvenir vous avez laissé au Katangais?
Je ne m'en tirais pas pour me donner de l'importance. Je considère que la paix morale sur l'ensemble de la province, je ne sais pas si vous pouvez la chiffrer. Quand j'ai quitté le gouvernement, tout le monde, tous les Congolais qui habitent le Katanga étaient en paix, allaient chiffrer sous la main. Et il y a eu la reprise des activités économiques lorsqu'il y a eu la paix. Il fut un temps où les opérateurs économiques évitaient d'investir dans cette province parce qu'ils étaient incertains du lendemain. Mais après, ils ont pu le faire.
Aujourd'hui, docteur, vous êtes député provincial. De plus en plus, on parle du découpage territorial et c'est un problème déjà ici au Katanga. Vous, comment vous percevez cette question du découpage territorial?
Madame, le découpage est prévu dans la Constitution que nous avons votée en 2006. Le découpage peut être mis en application, mais il conditionne l'acquisition de certaines... Acceptons des préalables. C'est là où on ne se comprend pas lorsque nous discutons sur le découpage. C'est vrai que la province du Katanga, avec sa grandeur actuelle, son importance, il y a la province du Katanga, la province orientale, la province de l'Équateur qui sont énormes au point de vue superficiel. On peut s'imaginer qu'il faut avoir des entités faciles à gérer, parce que pour le Katanga, si on doit faire d'itinérance, mieux vaut avoir un petit porteur. De ce côté-là, on comprend. Mais, il faut préparer ce découpage. Il faut réunir les conditions qui permettent aux nouvelles autorités de fonctionner. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ni au niveau du pouvoir central qui devrait donner des moyens, ni au niveau du pouvoir provincial qui devrait concéder une certaine partie. C'est là le problème. S'imaginer où il est vrai, si nous voulons gérer correctement la province du Katanga, il faut réduire en entité facile à contrôler. Mais nous n'avons pas, alors qu'il est, les moyens pour réaliser cela.
Et vous pensez que les Katanga ou le gouvernement central pourra avoir ces moyens qu'en 2011-2016, pour l'instant, ce n'est pas possible?
Je ne saurais pas vous dire quand. Parce que c'est maintenant que, sur le plan de finance, la République démocratique du Congo vient de se voir dans les conditions qui lui permettent de gérer plus ou moins bien avec l'effacement de une partie de la dette extérieure, ce qui lui permettrait d'avoir des revenus pour certains besoins.
Si par exemple, demain, après-demain, on mettait les moyens à la disposition des provinces, vous êtes prêt à accepter ce découpage?
Oui, je vous l'ai dit. Étant donné que la province du Katanga est énorme, pour approcher les administrés de ce qu'ils administrent, il faudrait réduire un peu. Mais il ne faut pas réduire pour réduire, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir une entité qui ne parvient pas à fonctionner par manque de moyens. financer.
Alors, docteur Urbain, qui sont là, vous êtes député provincial, vous parlez des problèmes qui concernent la population à l'Assemblée provinciale. On va rester dans le chapitre du découpage territorial. Il y a un problème qui se pose quant à la ville de Kolozi pour le prochain découpage. Il y a le Lualaba qui voudra avoir Kolozi comme chef-lieu. Entre-temps, le Haut-Katanga se réclame aussi la même ville de Kolozi comme chef-lieu. Vous, en tant que député provincial, comment vous voyez ce problème?
Madame Thierry, c'est un problème. Quand on en parle, on oublie certaines réalités. Lorsque nous étions sous la colonisation, et même après la colonisation, le district du Lualaba, tenez-vous bien, madame, avait son chef-lieu Kolozi. Lorsque, après l'indépendance, etc., on parlait du Lualaba, il y avait comme chef-lieu Kolozi, et c'est à partir de Kolozi que tout était organisé. La magistrature, l'administration, etc. Cela est resté, jusqu'au moment où on a commencé à parler du découpage. Il y aura une petite, je ne sais pas, pas une erreur, mais il se fera au niveau du ministère de l'Intérieur. Lorsqu'on parlait de Kolozi, on va accorder à Kolozi un statut particulier, bizarre. On va faire le district du Lualaba avec chef-lieu Kasaji. Mais Kolozi va rester avec le territoire du Lualaba, de Lubudi et Mouchatou. Pourquoi a-t-on fait cela? Je ne sais pas. C'est les arrière-pensées de ceux qui avaient décidé. Donc, on a changé le Lualaba avec comme chef-lieu devenait Kasaji. Et Kolozi, ça va amener des conséquences après. Kolozi était resté avec comme territoire supplémentaire Mouchacha et Lubudi. Ce qui va créer un problème ethnique dont on ne parle pas souvent. Lubudi est habité surtout par les Sangha et Mouchacha par les Ndengo et les Sangha. Mais lorsque Kolozi était le chef-lieu du district de Lualaba, Kolozi appartenait donc au Tchokwe, au Lunda et à tous les autres, qui, eux, pour eux, pendant des années, ils ont toujours considéré Kolozi comme le chef-lieu de leur district. Donc, si nous parlons aujourd'hui des coupages, il faudrait que nous puissions accepter, d'après eux, que Kolozi soit leur chef-lieu. Alors, ceux du Lualaba ne comprennent pas qu'on détache Kolozi. Ceux de Lubudi et une partie de Kolozi, ils disent non, nous devons rester à part. Il faut nous considérer comme une entité à part. Mais il n'y a pas une province qu'on appelle comme province de Kolozi. Non. On a parlé, même quand on a parlé de 26 provinces, on les a citées ces 26 provinces, on n'a pas cité Kolozi. Mais où situe-t-on Kolozi? Que deviendra Kolozi?
Alors, je vous pose la question, que deviendra Kolozi?
Ce n'est pas moi, ce sont les législateurs au niveau de Kinshasa qui vont décider, puisque aujourd'hui, dans la Constitution, Kolozi ne figure nulle part. Est-ce une entité rattachée à Lualaba, ou bien c'est une entité à part? Il faudrait en faire une nouvelle province.
Alors, docteur Urbain Kisula, c'est l'année jubilaire, elle a déjà fêté son 50e le 30 juin 2010. Vous êtes né avant l'indépendance, vous avez vécu l'indépendance. Quel bilan vous dressez du parcours de la RDC 50 ans après?
Le bilan que je dresse?
Du parcours de la RDC, de l'indépendance à nos jours, est-ce que le bilan est positif, négatif, mitigé? Il y a des améliorations, des efforts à fournir encore?
Pour quelqu'un qui est né avant l'indépendance, qui a vécu les dernières années de la colonisation, et qui a vécu les premières années de l'indépendance, faire la comparaison est à la fois facile et difficile. C'est facile pourquoi, parce qu'on dit tout a été détruit, mais on peut dire aussi nous avons quand même réalisé certaines choses sur le plan humain. La preuve est que vous êtes là, intellectuel, peut-être que vous ne seriez pas parmi les intellectuels si nous avions continué avec l'ancien système. Puis avec moi, il y avait deux universités, il y avait moins d'instituts supérieurs. Donc c'est mitigé, je réponds comme vous l'avez dit, le constat est mitigé.
chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
On a le docteur qui est là. Quand vous n'êtes pas à l'Assemblée provinciale, quand vous n'êtes pas à votre cabinet, parce que vous avez un cabinet médical, comment vous passez votre temps, comment vous occupez votre temps?
Je le passe mal et je le vais. Je lis. Je lutte pour lire, parce que nous n'avons pas de librairie ici. Nous n'avons pas, même du journaux, vous qui m'en, vous en avez beaucoup, même si c'est 5, 6, 10 la même chose, mais vous avez au moins, nous n'avons pas ça. Depuis un certain temps, vous avez juste une vidéo, les livres ne circulent. Il faut quelqu'un qui fonde ses espoirs dans les livres, pense lire, il faut absolument lire. Et là, c'est un plaisir, c'est la télévision. Mais la télévision, c'est parfois, on est obligé de tourner le bouton pour regarder la télévision étrangère. Parce que les nôtres ont été envoyés par les églises. Quand vous êtes à Lubumbashi, passez votre temps à regarder la télévision, bien vous verrez qu'il est dominé par les églises. Il fallait que les églises payent mieux.
Et ça vous ennuie de suivre?
Oui, je vous avoue, ça, ça m'ennuie. Ça m'énerve même de suivre tout.
Et vous préférez suivre quoi à la place, par exemple?
Des émissions éducatives. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que, ici, il y a peu de chaînes qui parlent de la culture, qui parlent de l'histoire. Demandez à un enfant, à un adulte, de vous expliquer l'histoire de sa tribu. Non, je ne connais pas. La connaissance de cette histoire permet à l'individu de mieux comprendre l'autre. Le fait que j'ignore mon histoire, je peux croire que si j'ai un malheur, c'est parce que c'est vous qui me l'avez créé. Mais si je connaissais mon histoire, que je connaissais la vôtre, il se pourrait que nous nous rencontrions. Et au lieu de nous jeter des flèches, nous ferons autre chose pour vivre ensemble.
Docteur, si vous arrivez aussi d'écouter la musique quelquefois?
Oui, oui.
Quel genre de musique, par exemple?
Ah, madame Kelly, la musique congolaise, la musique étrangère. À l'époque où j'étais jeune, j'aimais plus la musique congolaise de Kinshasa. Je n'étais pas inférieur au Kinois, non, mais c'était la musique à l'époque, la musique étrangère. Donc, si vous connaissez des grands musiciens de l'époque, musiciens français, notamment.
Claude-François,
Philippe-François. Merci, madame.
J'ai
Même, non. Si vous me faites plaisir, vous me mettez un Claude-François, ça me ferait énormément plaisir.
D'accord.
Je sais que cette fois, c'est la fin. Je sais que l'on n'y peut plus rien. Je sais, mais je ne peux pas croire. Je sais qu'il n'y a plus d'espoir. Je sais qu'il peut seul dans ma vie. Je crois. Je crois tout seul la nuit. Je pleure de haine au petit jour. Je te hais en gémissant d'amour. Oh, j'ai si mal. Je pensais qu'un autre déjà se tient dans tes bras. Que je n'aurais pas dû. Je sais que souvent j'ai eu ça. Je sais que notre amour est mort. Et j'ai si mal de penser. je sais que l'on n'y trouve plus rien. Je sais que cette fois c'est la fin. Je sais, je te veux t'oublier. Je ne devrais pas pleurer.
Alors, docteur, nous sommes à la fin de notre entretien. Un message particulier à tous ceux Congolais qui nous suivent sur Radio Kapi. C'est une radio qui se dit partout en RDC à travers le monde grâce à notre site internet www.radiookapi.net. Quelque chose à leur dire.
Il faut que les Congolais, c'est un souhait, fassent l'effort de connaître leur pays, de connaître l'économie de leur pays, l'histoire de leur pays. C'est vraiment intéressant. Parce que, Madame Kelly, vous êtes dans la province du Katanga. Aujourd'hui, c'est une province qui a connu beaucoup de difficultés, non seulement les luttes que vous connaissez, mais qui a connu l'effondrement de ces entreprises. Or, ce sont ces entreprises qui permettaient à la population de mener une vie plus ou moins décente, ce qui n'est vraiment plus le cas aujourd'hui. La GKMIN, la CIMANCAD, la SNCC. Il faudrait donc que nous arrivions à remettre en route cette économie qui a permis au Katanga de mieux vivre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Et que faut-il faire pour relancer l'économie du Katanga?
Ce qu'il faut, c'est que et le pouvoir central, et le pouvoir provincial, essaient un peu de se mettre ensemble et de réfléchir, puis d'agir, afin de permettre à l'économie du pays de se redresser. Il y a quelque chose que nous avons vécu au cours des années passées, on a pris des décisions pour remettre la GKMIN et les autres sociétés en état de fonctionner. Malheureusement, c'était des mesures où il y a eu plusieurs interventions. On ne sait plus finalement ce qu'on a voulu faire. La GKMIN qui était une entité, on a saucissonné, on a dépêché la GKMIN. On a donné un thème, un tel. Les bénéficiaires de ces mesures se sont retrouvés à Toronto, à Londres, se sont retrouvés au niveau des bourses. Et quand ils ont gagné des millions d'argent, ils se sont retrouvés au niveau des villes, de la République démocratique du Congo, le Katanga, se sont retrouvés là où ils sont aujourd'hui. Il y a un problème très sérieux. Si je parle de la GKMIN, vous allez dans la province de orientale, vous allez dans la province de Kassai Oriental, et bien vous retrouverez la même situation. Où est parti la Miba? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a du diamant, mais ce diamant ne produit plus l'argent qu'il produisait avant? Kilomoto, il y avait de l'argent, il y a de l'or aujourd'hui, même aujourd'hui, et qu'est-ce qui fait que Kilomoto ne donne plus d'argent pour permettre aux populations de vivre décemment?
Ok, docteur, c'est un plaisir de nous entretenir avec vous. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. Vous étiez en pleine consultation. On a dû vous interrompre pour que vous puissiez nous accorder cette interview. Merci beaucoup et à la prochaine peut-être.
Je vous remercie, je suis surpris de l'honneur que vous m'avez fait. Je suis ravi de constater que Mme Kelly, vous connaissez, c'était bien informé sur moi avant de venir m'interviewer. Je vous remercie
beaucoup. Merci beaucoup.
C'est la fin de cette émission. Je rappelle que je recevais pour vous Dr. Urbain Kislangoy, ancien gouverneur de la province du Katanga et actuellement député provincial. Merci à Eddy Martis qui était à la technique, au micro Kéline Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. On suit deux programmes sur la fréquence de la paix.